Eh ben, je trouve que la vie n'est pas si désagréable que ça.
Malgré que tu vas mourir, tu dis, bon, eh bien, tâche de donner du bonheur aux autres, que tu laisses un bon aspect de ta vie.
Transmission. It's a strange world to live in. Un documentaire sonore enregistré à l'EHPAD Beau Soleil de Rivière-sur-Tarn. I'm glad that I found you and your love.
Là, je recoule les oreilles de Lapinou, ma petite fille qui l'a eue pour sa naissance. Elle a 27 ans.
Alors là, ne me demandez pas à moi.
Il faut savoir.
Il faut demander à Béatrice là-bas.
Oui, mais oui.
Dans une petite salle de l'EHPAD, un groupe de résidentes, de familles et d'habitantes du village partagent ensemble un atelier de tricot. L'atelier tricot se déroule au sein du projet de tiers-lieu appelé les Terrasses du Soleil à l'EHPAD de Rivière-sur-Tarn.
Je suis Nathalie, la fille de Madame Lio, qui est ici depuis un peu plus d'un an. Et on essaye de participer au maximum à ces activités. Déjà les activités qui sont proposées en interne. Et là, le tiers-lieu, c'est une très très bonne idée. Ça permet de faire plein de rencontres, et pour les résidents et pour leur famille. Ma mère aimait beaucoup tricoter et elle a beaucoup perdu en capacité motrice. Et donc voilà, c'est très bien pour essayer de la remotiver, qu'elle reprenne confiance dans les gestes qu'elle savait faire et qu'elle ne sait plus faire.
Madame Roque-Georgette, j'habite ici à Rivière et on vient pour se détendre, pouvoir participer avec tout le monde, voir un petit peu et voilà, ça fait du bien. On a le tricotage et le patois, alors l'occitan, voilà. On discute avec tout le monde, ça fait plaisir aux personnes qui sont là. Donc on passe un bon moment, hein, et on chante aussi.
Vous chantez quoi ?
Eh bien, là, quand on fait l'occitan, on chante en patois. On a chanté... On chante des petites choses comme ça, vous voyez ? Ou alors, il y a... Il y a le fond de la Prade, le coquette, il compte, voilà. Voilà, on essaie de donner un peu de distraction et tout le monde participe. Voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde. Voilà.
Et là, vous êtes en train de faire quoi en tricot ?
En tricot, c'est-à-dire, je ne savais pas, j'ai pris une pelote de laine et j'ai dit, je vais inventer quelque chose.
Assise autour d'une table, les gestes machinaux de la couture invitent les participantes à échanger et à se rencontrer.
Sont délicieux, oui. Oh là là, merci madame.
Je m'appelle Lucette, hein, Lucette Gréteau, enfin bref. Hein. J'ai été femme au foyer. Ben, je vais faire du tricot, mais enfin, faut dire que là, je vais faire un carré. Non, il faudrait pour bien faire que je mettrais un tricot en route chez moi, puis je viendrai avec mon tricot.
Vous aimeriez faire quoi ?
J'en sais rien. Parce que, je vais vous dire, ils n'ont pas besoin pour le moment de pull de verre, ils n'ont pas besoin, et ça passe les uns aux autres, hein. Puis c'est l'été. Il faudra d'abord que les parents regardent ce qu'il leur faudra pour l'hiver. Puis après, ben, on verra. J'ai une vie tout à fait chaotique de la vie, hein. Mais bon, maintenant je vais mettre de l'ordre dans tout, mais dans tout, hein. Mais j'ai même pas de tricot en route parce que faut que je demande, parce qu'ils passent des tricots les uns les autres. Alors maintenant je vais plus faire l'improviste, faut que je leur demande ce qu'ils ont besoin.
À vos enfants, vous pouvez le dire ?
Ah oui, parce que moi, j'en ai pas besoin. Tiens, ça, c'en est un que j'ai vu.
C'est vous qui avez fait nos pulls ?
Oui.
Il est très beau.
Il est simple, hein.
Béatrice est bénévole au sein du tiers-lieu et raconte pourquoi elle a voulu s'impliquer.
Il y a très peu de temps, enfin, pour moi, c'était hier, j'ai perdu ma maman. Et de venir partager mon savoir avec des personnes âgées, de partager des beaux moments surtout avec les personnes âgées, et ben moi ça m'aide. Moi je trouve ça fabuleux. Cet après-midi on a bien ri, on a discuté, on a partagé des beaux moments. Elles se sont mises à tricoter spontanément. Elles étaient heureuses. Simplement de voir des personnes âgées heureuses, ça vaut tout l'or du monde. Et elles nous racontent leur vie à travers le tricot. La dame là qui vient de passer, la première fois qu'elle est venue, je lui ai dit « Bonjour, vous venez pour tricoter ?» Elle m'a regardée avec un air très sérieux. Il n'en est pas question. Et là, eh ben, elle a tricoté tout l'après-midi. Et elle était heureuse comme tout. Je lui ai dit « Mais c'est super beau ce que vous avez fait. Oh, je vous remercie, Béatrice, de m'avoir dit ça. » Je lui ai fait « Mais non, parce que c'est joli. Donc, je vous le dis, puisque c'est joli. Enfin, il n'y a pas de raison que je ne vous le dise pas. Oui, quand j'étais jeune, je tricotais beaucoup. » Voilà. Elles repartent un peu dans leur passé. Et c'est joli à écouter. Quand ma mère me parlait de son passé, j'aimais ça. Et je retrouve ça avec elle.
Mais pour le crochet, pour apprendre à ma fille à tricoter avec les gauchères, mais pardon.
La directrice de l'EHPAD, Cécile Jamme, raconte d'où vient cette idée de tiers-lieu.
Les EHPAD dans lesquels j'ai travaillé antérieurement étaient attachés à des hôpitaux et on se retrouvait avec des services qui ressemblaient à des services hospitaliers dans lesquels les gens venaient pour vivre leurs vieux jours, mais dans lesquels on leur proposait un accompagnement hospitalier. Donc j'ai fait mon travail de recherche sur sujet et de fil en aiguille, ça a permis de questionner pas mal de concepts, dont l'identité qu'on a donnée à ces établissements. Et avec un peu l'approche sociologique, les lectures et tout ce qui se fait aujourd'hui, je me rends compte que ce qui manque, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Ils peuvent plus se déplacer parce qu'aller en ville, c'est trop compliqué. Mais pourquoi ne pas faire rentrer l'extérieur dans nos murs ? Alors ici, le tiers-lieu, au départ, c'était de dire, qu'est-ce qu'ils aiment bien les personnes âgées ? Ils adorent manger et cuisiner. Donc on va faire des trucs autour de ce qu'ils aiment bien. On va faire venir des gens de l'extérieur pour faire de la cuisine. Eux donneront des recettes, des cuisiniers viendront, il y aura des gens, des touristes, ça va faire un lieu de passage. Ensuite, Camille a été recrutée parce que je ne pouvais pas porter ce projet toute seule. Et Camille a amené encore d'autres idées où on pouvait aussi faire de la culture, du social, où on pouvait aussi retracer des histoires pour pouvoir les porter. Et toutes ces personnes qui viennent chacune faire une mission, ça fait de l'ouverture. Ça fait de l'ouverture pour les résidents, ça fait de l'ouverture pour les familles. Notre regard de l'EHPAD, c'est le aller vers et dans les deux sens. On sort et on rentre, ce n'est plus fermé. En plus, le Covid avait bien contribué à enfermer tout le monde.
Ce projet, il découle en fait d'un projet national.
Camille Lourgeot, coordinatrice du projet Tiers-lieu.
Donc il y a eu un appel à projet en 2021 lancé par la CNSA, c'est la branche autonomie de la sécurité sociale, pour impulser une dynamique de tiers-lieu, de lien social dans les EHPAD. Et il y a eu pas mal de candidatures. Il y a en tout 25 projets au national. Et donc l'ARS Occitanie en fait a décidé de soutenir des projets supplémentaires, dont le nôtre. Et on est subventionné à hauteur de 48 000 euros pour un projet qui fait 60 000 euros au total pour une année. Voilà, au niveau d'expérimentation du tiers-lieu en EHPAD. Le but de mon poste, c'est de coordonner les actions, de créer la dynamique, de lancer le projet, tout en étant au sein de l'établissement et en lien avec l'extérieur. Le mot tiers-lieu, il ne veut pas dire grand-chose. J'ai passé pas mal de temps à essayer de faire comprendre ce que ça voulait dire. Mais pour moi, le sens du projet, il réside vraiment dans le lien social et dans le mélange de générations, dans l'ouverture vers l'extérieur. Et le but de ces projets-là, c'est de redonner une place aux personnes âgées qui sont parfois mis dans un EHPAD comme un petit peu mis dans un coin, comme si la vie s'arrêtait un peu là. Et en fait, ils font encore plein de choses, déjà, avec les services d'animation dans les EHPAD. Mais c'est aussi bien de faire rentrer les gens qui n'ont rien à voir avec leur famille pour qu'ils puissent avoir des échanges, des conversations, participer à des activités qu'ils ont pu faire quand ils étaient plus jeunes. Et tout ce mélange, ce brassage-là, ça donne des échanges et ça donne surtout de la convivialité et ça redonne aussi une petite place de citoyen à ces personnes âgées qui sont pour la plupart très âgées, il faut le préciser, dans les EHPAD, parce qu'avec la politique de santé d'aujourd'hui, les gens sont maintenus au domicile le plus possible parce que rentrer dans un établissement, ça coûte cher, parce que rentrer dans un établissement, ça donne pas spécialement envie, mais c'est aussi continuer d'impulser, de les écouter, d'essayer de leur donner envie, pas qu'ils restent en position voilà, d'attente.
C'est quoi ? Qu'est-ce que vous me proposez ?
Remettre au centre les besoins des résidentes et résidents, c'est aussi l'objectif de Cyruel Alexandrine, médecin coordinatrice au sein de l'EHPAD Beau-Soleil.
C'est un travail de coordination avec les infirmières, les infirmiers, avec les aides-soignantes. En gros, c'est de trouver des organisations de soins qui soient favorables au bien-être des résidents et aussi au bien-être des soignants, parce que si les soignants travaillent avec des pratiques harmonisées, c'est plus facile pour les équipes et donc le rendu est meilleur pour les résidents. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de venir ici, c'est de remettre effectivement le non médical un peu au centre du projet de soins, de façon assez paradoxale, puisque je suis censée être médecin, on pourrait croire que je vais faire des protocoles médicaux, attirer l'arigot, mettre le médicament au cœur de mon projet de soins, alors que c'est totalement le contraire, c'est-à-dire d'essayer toujours de trouver en quoi on peut d'abord mettre en place des méthodes non médicales et de faire intervenir en dernier recours les traitements purement médicaux. Si mon travail de coordination est bien fait, on devrait avoir le moins recours possible à des techniques médicales dans certaines situations, comme les situations d'agitation, les situations de douleur, les situations d'angoisse. Voilà, on devrait pouvoir régler ça au maximum sans faire appel à la médecine conventionnelle.
Les résidentes et résidents rentrent à l'EHPAD de manière progressive pour s'habituer à ce nouveau cadre de vie.
Alors quand quelqu'un veut rentrer ici, c'est pas souvent la personne qui veut rentrer elle-même, c'est très très rare, c'est plutôt les enfants qui sont à bout de souffle, ou les proches.
Cécile Jamme, directrice de l'EHPAD Beau-Soleil.
Donc je rencontre toujours la famille, et ou le résident quand c'est possible, et ou son épouse quand c'est possible. On fait un petit entretien ici dans mon bureau, je leur explique un petit peu le fonctionnement de l'EHPAD et surtout les valeurs et ce qu'ils vont y trouver. Ensuite, eh ben, on fait une petite visite et ensuite ils réfléchissent, ils remplissent un dossier, on se revoit et ils nous disent bah, c'est votre établissement qu'on choisit parce que si, parce que ça. À partir de là, ensemble, on choisit une date et on organise l'entrée progressive. Ce que je demande aux familles d'abord, c'est de venir préparer la chambre afin que le jour où le résident arrive, il y ait le tableau de famille, la petite nappe sur la table, la télévision, une lampe de chevet qu'elle avait dans son salon. Ça, c'est très important pour qu'il y ait une identité par chambre. Et ensuite, dans l'idéal, quand tout le monde veut bien jouer le jeu, le jour de l'entrée, où on demande à la famille de venir manger avec le résident, de partager le premier repas, afin que l'entrée se fasse tout en douceur. Parfois même, le résident vient poser ses affaires et repart et il rentre à une date donnée. Voilà. Mais ça se travaille toujours sur une période de 15 jours à 3 semaines pour que ce soit le plus acceptable possible quand il n'y a pas d'urgence.
Bonjour. Bonjour, chérie. Après, on peut commencer par Steph, Aline, si tu veux. Je ne sais pas où
aller. Une entrée qui est accompagnée aussi par un suivi psychologique assuré par Gaëlle Isabelle, psychologue à l'EHPAD.
Mon travail au sein de l'EHPAD consiste à accompagner donc les résidents, de pouvoir justement les accueillir le plus humainement possible, tout en sachant qu'arriver dans une EHPAD, c'est pas évident. Donc il y a tout un accompagnement qui peut se faire aussi avant, c'est rencontrer aussi les familles, de pouvoir leur expliquer qu'est-ce qui fait qu'ils souhaitent aujourd'hui qu'une personne de leur famille puisse être accueillie dans ce genre d'établissement. C'est surtout aussi que des fois, il y a une difficulté, il y a une perte d'autonomie. Les personnes donc, commencent aussi à déclarer donc, des troubles cognitifs qui ne permettent pas justement que les personnes puissent rester de façon en sécurité à leur domicile. Donc du coup, le but, c'est de pouvoir comprendre quelle est leur venue et surtout les aider à s'adapter, parce que c'est la chose qui est la plus difficile. On les coupe de leur environnement dans lequel ils étaient, souvent depuis toujours, et de pouvoir leur expliquer et souvent leur situer aussi où on est. Parce qu'on s'aperçoit que souvent les familles, un peu leurs parents, sans trop expliquer où on va et pourquoi. Donc c'est important, nous, de reprendre tout ça, enfin pour ma part, et de bien préciser la réalité, resituer où on est, comment on peut les accompagner au mieux, tout en respectant les personnes qui y sont.
Nathalie, fille de Madame Lio, raconte l'entrée de sa mère dans l'établissement.
Elle vivait en Normandie, donc déjà il y a l'éloignement géographique. Elle a été hospitalisée suite à une fracture du fémur. Voilà, le retour à la maison seule, c'était pas possible. Donc on a proposé le rapprochement, maman était d'accord. Donc elle est venue. On est rassurés, on est très contents de l'accueil, de la structure. On ne regrette pas le choix.
Donc aujourd'hui, on est jeudi 1er juin.
Ah bon?
Ça y est, on est au mois de juin.
Ah bah dis donc.
Alors, je m'appelle Cécile Denis, je suis la fille de Jean Denis qui est résident à l'EHPAD depuis octobre dernier. Et nous venons de la région parisienne. Moi, ça fait 2 ans que je suis installée à Mostuéjouls. Comme mon papa a besoin de visite parce qu'il a perdu la vue, il a besoin d'avoir une compagnie parce qu'il, du fait de sa cécité, il est très isolé. Voilà. Il ne peut pas se faire d'amis, de connaissances. Quand on ne voit plus, c'est compliqué. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a plus vraiment d'échange. On se parle, mais ça vient surtout de moi ou de ma famille, enfin de ceux qui le visitent. Et lui n'a plus trop de conversation parce qu'en fait, il ne se souvient pas trop de ce qu'il a fait et il ne sait pas trop où il est. Je lui demande alors comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, il ne se souvient pas. Donc en fait, c'est un petit peu une conversation à sens unique, mais il réagit. C'est-à-dire que moi, je vais lui raconter mes journées un petit peu, ce qui peut l'intéresser. Il va dire « Ah bon ?» il réagit, mais c'est plus compliqué. Je viens le voir quasiment tous les jours. Et on cherche des mots ensemble sur des thèmes divers et variés ou ayant des mêmes sonorités. Et puis, moi, je lui fais des lectures. Bon, j'ai été bibliothécaire, donc... et lui travaillait dans le domaine du livre, dans l'édition. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous réunit. Et donc, je lui fais une lecture pendant 10 minutes, un quart d'heure, à chaque fois que je viens le voir. Alors, est-ce que tu te souviens ce que je te lis en ce moment ?
Pas tout à fait.
C'est des histoires de quoi ? C'est des petites histoires d'animaux, tu te souviens ?
Non.
Alors hier, je t'avais lu les chauves-souris et le serin qui était dans sa cage.
Oui.
Tu sais, mais il ne voulait pas chanter.
Oui.
Alors aujourd'hui, donc ça s'appelle « Histoire naturelle » de Jules Renard.
Ah bon ?
Et alors, l'histoire que je vais te lire aujourd'hui s'appelle « Le nid de Chardonneret ».
Ah bon ?
Tu connais cet oiseau-là ?
Un petit peu.
Un petit peu, hein ? Alors, je commence. « Il y avait sur une branche fourchue de notre cerisier un nid de Chardonneret joli à voir, rond, parfait, tout crin au dehors, tout duvet au dedans, et 4 petits venaient d'y éclore. Je dis à mon père, « J'ai presque envie de les prendre pour les élever. » Mon père m'avait expliqué souvent que c'est un crime de mettre des oiseaux en cage. Mais cette fois, là sans doute de répéter la même chose, il ne trouva
rien. Est-ce que vous pourriez juste redire votre prénom ?
Ginette. Ginette Écuyer. Ah oui, c'est très bien. Non, c'est très bien ça. La lecture, qu'est-ce qu'on fait encore comme...
La couture, tricot, le patois, occitan.
Alors là, zéro.
Vous aimez lire ?
Ah oui, maintenant je ne vois plus tellement clair, j'ai des livres audio que ma belle-fille me prend à la bibliothèque. J'ai commencé aujourd'hui Le palais dans le sabre. On va voir ce que ça va donner. C'est assez intéressant, les disques comme on a là. Les chapeaux, hein, parce que pour nous qui voyons moins clair,
je ne peux plus lire, je lisais beaucoup. Et voilà. J'ai lu beaucoup d'anciens écrivains. Moi, j'aime beaucoup les romans, un peu la campagne, quoi. Mais j'ai lu du Balzac, tous ces grands écrivains, j'ai lu Victor Hugo. J'ai une vie un peu remplie.
Depuis qu'il y a un tiers-lieu là, qui se met en place au sein de l'EHPAD, comme je suis bénévole à la bibliothèque de Rivière-sur-Tarn, nous avons été contactés et nous avons décidé de venir une fois par mois, donc faire des lectures à un groupe de résidents sur des thèmes à chaque fois différents. Donc on a commencé par l'amour, après l'humour, les fleurs, je crois. Déjà jusqu'au mois de juillet, on a programmé et puis après, on reprendra certainement à la rentrée. Et c'est une activité qui, nous, en tant que lectrices et lecteurs, nous apporte beaucoup. Déjà, on aime bien lire, mais c'est vrai qu'après, on échange avec les résidents et on chante aussi. Et c'est vraiment un très beau moment de partage. Voilà, je pense que ça leur apporte autant que nous, ça nous apporte. Ça change déjà de leur quotidien. Ça les ouvre sur d'autres mondes au travers de la lecture, d'autres personnes. C'est vrai qu'on vit ça ensemble.
Bien qu'ils s'appellent Pépé et Mémé, mes grands-parents sont plus jeunes que la plupart des résidents des Hortensias. Mais je ne sais pas à partir de quand on est vieux. Madame Le Camus, ma chef de service, dit que c'est à partir du moment où on ne peut plus s'occuper de sa maison tout seul. Que ça commence quand il faut laisser la voiture dans le garage, parce qu'on devient un danger public, et que ça finit quand on se casse le col du fémur. Moi, je pense que ça commence avec la solitude, quand l'autre est parti, pour le ciel ou pour quelqu'un. Ma collègue Jo dit qu'on devient vieux quand on commence à radoter, et que c'est une maladie qui peut s'attraper très jeune. Maria, mon autre collègue, que ça vient avec la sourde oreille et les clés qu'on cherche 10 fois par jour. J'ai 21 ans et je cherche mes clés 10 fois par jour.
Valérie Perrin, Les Oubliés du Dimanche. Une fois rentrés dans l'établissement, les résidentes et résidents peuvent aussi profiter de soins adaptés et un petit groupe.
Du coup, je m'appelle Aline Grégoire, je suis psychomotricienne et je travaille essentiellement au PASA de l'EHPAD Beau Soleil. C'est le pôle d'activité en soins adaptés. Donc en fait, c'est un endroit où on accueille 14 résidents à la journée. À ce moment-là, on leur propose une activité le matin. On mange ensemble et ensuite on leur propose encore une activité et une activité après le soir, après le goûter. C'est surtout des activités pour maintenir leur autonomie et pour limiter les troubles du comportement. Chez les personnes âgées, justement, il y a souvent la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, ça vient du cerveau et ça touche souvent le corps. La maladie d'Alzheimer, ça fait perdre la mémoire, donc au bout d'un moment, ça fait perdre la mémoire des gestes aussi. Donc du coup, nous, on essaye de ramener les gestes du quotidien et les gestes habituels pour que ça leur fasse rappeler des souvenirs et ça leur fasse garder ces gestes de l'autonomie. Et après, pour la maladie de Parkinson, mais c'est pareil, ça touche beaucoup le corps. Donc avec des raideurs, des tremblements, difficultés d'initier les mouvements. Donc du coup, on travaille beaucoup sur le corps, sur les mouvements, justement, pour que ça puisse garder les schémas neurologiques dans le cerveau. Tout ce qui est troubles psychiatriques, on va dire, ça se retrouve beaucoup dans le corps. Donc les personnes avec un trouble dépressif, eux, ils ont surtout une hypotonie, ils ont un tonus beaucoup plus bas, ils n'ont rien envie de faire, ils sont repliés sur eux-mêmes. Donc du coup, on essaye justement, grâce à ce petit groupe au PASA par exemple, de leur permettre de s'exprimer, de s'ouvrir et de montrer qu'ils sont capables encore de faire beaucoup de choses.
André Prateil, hein. Voilà, alors j'ai bientôt 60 ans.
Non, plus,
Ah oui, non, mais 83 ans. Et bien voilà, je passe ma vie comme ça à la retraite et voilà.
Vous avez travaillé où du coup ?
Un peu partout et nulle part. Essentiellement à là-haut, à l'hosto, à l'Hôtel Dieu. Ça, à l'Hôtel Dieu, on y a fait de belles choses. Ce que je faisais normalement, hein, les toilettes, les scies, les mises, là-haut, le bal, faire manger, la vie de tous les jours.
Et qu'est-ce qui vous plaisait dans votre travail ?
Ah, il y a le contact avec les malades, les conversations, la vie. Non, mais moi je me suis régalée dans ce milieu. Il y a bien du monde.
J'ai fait agriculteur beaucoup, agent de maison. J'étais une maison d'enfants, pour les gosses et pour les enfants. Je m'occupais aussi de la ferme. J'avais 30 vaches à l'époque. Responsable, et faire les foins et ainsi de suite. Et j'étais chauffeur de foyer, alors il fallait aller mener les grosses et ainsi de suite. Il y avait un petit car et c'était moi qui étais le chauffeur. Et je m'occupais de la propriété parce qu'on avait des jeunes en apprentissage qui étaient mis à la porte. Je les occupais pendant ce temps.
Eliane, moi j'étais institutrice. J'étais à la campagne, à Coursac de Sévérac-le-Château, si vous connaissez, près de la Clos. Et j'étais institutrice pour le village, pour les alentours, parce que les enfants parfois venaient des fermes voisines, à pied. Et quand il faisait beau, c'était formidable, mais parfois quand il y avait de la neige, ce n'était pas pareil. Mais enfin, quand ils arrivaient, on les laissait rentrer en classe. C'était la moindre des choses de les laisser chauffer. Quand ils arrivaient froids, comme on dit, les élèves, les parents d'élèves, amenaient du bois pour alimenter le poêle. On chauffait au poêle à bois. C'était agréable. On le garnissait suffisamment pour qu'il tienne toute la journée. C'était des classes uniques. Quand ils ne savaient pas lire, ils commençaient par apprendre à lire. À écrire, ça se passait très bien. Le matin, il y avait morale, souvent, ou instruction civique. Il n'y avait pas de discipline à faire. Je n'avais pas besoin d'être sévère. C'était agréable d'avoir tous les enfants. On les avait de 4, on les prenait à 4 ans, 4, 5 ans, jusqu'à 10 ans. On passait le certificat parfois aussi, à 14 ans.
Je m'appelle Monsieur Bonnet Yves. J'ai fait électricien toute ma vie, quoi. Et depuis l'âge de 17 ans et demi, ouais. Disons que bon, j'étais avec mes parents, je leur ai aidé à. Je leur ai aidé parce qu'ils étaient paysans, quoi. Et après, j'ai fait une formation dans la part d'électricité et j'ai fait électricien, quoi.
Vous avez fait quoi comme travail ?
C'est là où on va commencer à rire. J'étais danseuse étoile à l'opéra.
Oui, pendant longtemps ?
Jusqu'à ce que je sois danseuse étoile. Après j'ai travaillé dans les cosmétiques. J'ai eu le cerveau touché et j'ai été malade 2 ans. Et j'ai pas récupéré.
Vous participez à des animations ?
Je crois pas, j'en sais rien. Ah oui ? Tu vois, voilà, ouais, non, je m'en souviens pas, elle va te le dire.
Oui, oui, vous participez, Martine.
C'est ça, mais mon cerveau, je suis pas une.
Mais vous participez tout de même.
Bon, alors ça me fait plaisir de t'entendre. C'est toi qui m'apportes un peu de lumière. Merci. Merci à toi.
Les animations à l'EHPAD sont organisées par Stéphanie. De la gym douce aux activités mémoire, elle explique l'importance de ces moments pour les résidentes et résidents.
On essaie de maintenir ce lien, ces échanges, parce que plus ils échangent, moins ils se renferment sur eux-mêmes, plus ils maintiennent leur autonomie, plus ils maintiennent leurs acquis. Ça dépend des personnes, évidemment, mais la plupart du temps, plus ils partagent, plus ils gardent leur identité, voilà. et puis ils partagent leurs connaissances, leur expérience. Et c'est vrai qu'ils sont très fiers de pouvoir partager leur expérience entre eux et envers nous qui sommes d'une génération, d'une autre génération.
Il y a une bonne entente, je ne sais pas comment vous dire. Ah, mais quand il y a quelque chose à faire, quand même, quand des choses sérieuses, on travaille sérieusement quand même. Hein. On ne pense pas toujours à la connerie, mais c'est vrai qu'on fait du bon boulot. Tu l'as là, mais tu crois que je vais t'y faire.
Je ne peux rien faire.
Mais je vais te faire une veste, attention les yeux. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Quand il fait beau, nous sortons les dépendants dans le parc pour qu'ils prennent l'ombre du soleil sous les tilleuls. La visite du vent dans les arbres, des abeilles, des papillons et des oiseaux comble leur attente. Nous leur donnons du pain à jeter aux moineaux et aux pigeons. Il y en a qui adorent, il y en a qui ont peur, il y en a qui leur balancent des coups de pied. Alors ça s'engueule. Et tant qu'ils s'engueulent, ils n'attendent plus. Chez soi ou ailleurs, tous les beaux temps se ressemblent.
Valérie Perrin, Les oubliés du dimanche.
Ah, d'accord, je comprends mieux.
Entre les murs de l'EHPAD, c'est comme une deuxième famille qui se crée entre les personnes résidentes et le personnel soignant.
Il y a des personnes qui ont peu de famille ou leur famille est quand même pas mal éloignée.
Jérôme Flanda, aide-soignant et coordinateur hôtelier à l'EHPAD Beau Soleil.
Donc on fait partie un peu de leur rayon de soleil quotidien, et leur confident. Et voilà, on crée quand même de très très belles relations, et on est bien proche d'eux quand même. Tout en restant professionnel, bien sûr, mais ce qui leur permet d'avoir quand même la possibilité de pouvoir échanger, se confier, et qu'on puisse quand même passer du temps avec eux quand on le peut. Et j'ai eu connu des personnes dans cet établissement que je connaissais depuis très longtemps, et lorsque je les accompagnais jusqu'à la mort, ouais, ça m'a beaucoup affecté, mais... On se protège, hein, comme tout le monde, hein, faut se préserver. L'accompagnement jusqu'à la fin de vie, c'est quelque chose qui est, enfin, une étape qui est très très difficile. Et puis notre but, c'est que la personne ne souffre pas, qu'elle soit très très bien accompagnée.
C'est une approche extraordinaire, dans le sens qu'on...
Nicoletta, aide-soignante à l'EHPAD Beau Soleil.
On prend soin de eux, sans porter de jugement ou autre. On prend soin de eux et la relation de proximité, elle n'est pas évidente, ce n'est pas dû à tout le monde. Même moi, je peux dire que le début, ce n'était pas évident pour avoir une relation de proximité avec un monsieur, par exemple. Prendre soin d'un monsieur, ce n'était pas facile. Mais avec le temps, on s'y fait. J'ai toujours aimé prendre soin de l'autre, aider l'autre, mais surtout aider l'autre faire tout seul. Ce n'est pas évident parce que dans l'établissement, la prise en charge des résidents, c'est de plus en plus de personnes dépendantes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en charge la personne en le laissant faire aussi. Souvent, en manque de temps, on va faire plus pour lui à la place qu'il lui fasse un peu la gestuelle du quotidien par rapport à la prise en charge des soins corporels. Mais on essaye de faire de notre mieux.
Aline Grégoire, psychomotricienne à l'EHPAD Beau Soleil.
Moi, ce qui me plaît, c'est ce que les résidents ont à m'apporter aussi. Ça m'a beaucoup appris sur la vie aussi, en tant que jeune. Et ce qui me plaît aussi, c'est de voir que les résidents sont capables de maintenir une autonomie. Certains même peuvent faire des progrès. Donc ça, c'est génial. Et voilà, après, surtout, le lien avec les résidents et leur joie quand ils arrivent à faire des choses qu'on leur propose, quoi.
On va monter à la chambre bientôt, hein?
Oui.
Vous voulez
qu'on
monte à la chambre?
Ah, mais ici, je fais un peu tout. Oui, moi, je suis un peu comme le bon Dieu. Je suis un peu partout, non, mais c'est vrai que... Mais moi, je me régale, en fait. Ah, je suis le bout en train, voilà. C'est ma nature qui est comme ça. Je ris tout le temps. C'est un besoin, je crois.
Je vais à la pêche, à la chasse, mais je pêche très peu. Je ne pêche plus, d'ailleurs, que devant l'Éternel. C'est de l'humour qu'il faut dans la vie. Ça, ça manque. Mais l'humour manque à tout le monde, madame. Vous voyez les gens, comment ils sont tristes. Quand ils sont à leur volant de voiture, on dirait qu'ils vont manger tout le monde. Et quand ils sont descendus de leur voiture, ils sont perdus. On ne voit pas la vie. La vie, ça se déguste.
J'ai eu deux enfants. Et puis, j'ai combien de petits-enfants? Alors, ma fille, elle n'a qu'une fille. Puis mon fils, oh ben lui, il en a trois ou quatre, je ne me rappelle plus. Vous savez, ils sont loin, alors ben, je ne les vois pas souvent.
Et ouais. Alors, vous êtes mariée depuis combien de temps?
Depuis 68 ans.
Et vous avez des enfants?
Trois. Des petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je suis dans le temps où les petits-enfants venaient en vacances chez nous à la ferme. Et alors, à ce moment-là, c'était... Pour moi, c'était... Le tout, ça faisait revivre, ça faisait renaître la maison, quoi. Et puis maintenant, bon, on est venu là, et les petits-arrière-petits-enfants, c'est la continuité. Maintenant, on peut communiquer un peu avec tout. Le téléphone, j'ai un ordinateur, je communique comme ça. On s'appelle comme ça, et de suite, ça change un peu, parce que chacun a pris... Son boulot, voilà.
Malgré les bonnes conditions de travail à l'EHPAD de Rivière-sur-Tarn, le personnel souffre du manque de valorisation de leur métier et parfois de la surcharge de travail.
On court quand même pas mal, notamment le matin pour les soins d'hygiène. Il nous faudrait peut-être un peu plus de temps pour pouvoir pratiquer un peu plus de soins et de prendre plus de temps aussi pour la communication avec nos bénéficiaires. Je pense que avec la pandémie, ça fait exploser toutes les mauvaises conditions de beaucoup de professionnels de santé. Malheureusement, il y a eu plein de démissions et que les gens en avaient ras-le-bol parce que ben, forcément, au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, les gens ils en ont marre, ils font des burn-out, ils saturent et soit ils changent de structure ou de métier même. J'ai eu des moments très difficiles, où, notamment quand il y avait eu la pandémie du Covid, enfin, le confinement, etc., où de voir rien que des personnes, nos résidents, coupés de leurs relations de famille par des visites, c'était très très difficile. Je faisais à ce moment-là des remplacements de nuit. Je peux vous dire que ouais, c'était très anxiogène pour moi et pour ma collègue de voir des personnes pas bien et qui se laissaient même des fois glisser. J'espère ne plus jamais revivre ce genre de situation.
Comment elle s'appelait votre femme, monsieur Lecou?
Colette.
Elle faisait quoi comme travail, Colette? Eh oui, je sais que ça vous émue. Mais on a le droit d'en parler. On pense à elle.
Beaucoup.
Voilà, on pense à elle. C'est pour ça. Avec elle, vous avez eu deux enfants?
Quatre. Il y en a un qui est décédé. Et après, j'ai trois enfants, un garçon et deux filles.
J'ai élevé mes enfants 30 ans à Paris par le biais de mon mari qui était parisien, pur. J'ai ma vie assez garnie à Paris, oui. J'étais jeune mariée, alors j'aime autant vous dire qu'on en a profité beaucoup. J'adore la campagne. J'étais pas faite pour la ville, j'étais faite pour la campagne. Mais bon, la vie a été faite comme ça.
Vous avez vu du pays?
Ah oui, oh, ça oui, j'ai eu du pays, mais en France. Oh ben vous savez, la France est grande, mais petite en même temps. Hein, on a fait toutes les côtes, toute la côte, tout l'intérieur. Je connais aussi presque aussi bien que les gens qui y habitent. Voilà, voilà.
C'est là que tout a commencé. Ils nous ont raconté des histoires. Et les vieux, comme ils n'ont plus que ça à faire, ils racontent le passé comme personne. Pas la peine de chercher dans les livres ni les films, comme personne. Ce jour-là, j'ai compris que les anciens, il suffit de les toucher, de leur prendre la main pour qu'ils racontent. Comme quand on creuse un trou dans le sable sec au bord de la mer, l'eau remonte systématiquement sous les doigts.
Valérie Perrin, Les oubliés du dimanche.
J'aime bien les chats. On en avait un qu'on a gardé 19 ans. On l'a payé d'ailleurs, mais on a été l'acheté à Annecy. Parce qu'on avait une amie, à ma femme, qui était là-bas, qui travaillait là-bas. Alors, parce qu'on est arrivé, on l'a choisi. Mais ils nous ont dit qu'il faut la laisser parce qu'il y a l'exposition demain et pour qu'elle soit présentée. Et alors, c'est ce qu'on a fait. On l'appelait Mouni. On l'a gardé 19 ans. Je dis que c'est le plus beau cadeau qu'on nous avait fait. Et mon frère, qui est là-haut près de Larzac, Saint-Jean de Lacasse. C'est moi d'ailleurs qui avais choisi son nom, son prénom. Il s'appelle Claude, parce que quand il est né, j'avais ma sœur, il y avait l'autre frère qui est mort, je ne sais pas. Et on nous a dit, comment vous voulez appeler le frère? Oh, je ne sais pas, alors je ne sais pas, moi j'ai dit Claude, et ça a été Claude. J'avais un copain qui s'appelait Claude.
J'avais eu le bac à Millau. J'avais fait mes études à Millau. J'étais parti à Normandie. J'avais fait l'école normale à Rouen. Et puis après, je me suis marié avec un Aveyronnais et je suis revenu dans l'Aveyron. Voilà. Pour revenir, il fallait se marier avec un Aveyronnais.
Hein? Les Aveyronnais sont terribles. Ils ne veulent pas partir d'Aveyron.
Remarquez, on est bien dans l'Aveyron. Et c'est agréable comme département. Oh non, non. De toute façon, quand vous avez du travail, vous savez, rien ne vous manque.
La mort, c'est quelque chose qu'on y pense tous, ou tout au moins on va tous y penser. Elle me fait pas peur dans la mesure que je sais qu'un jour j'irai.
Moi-même, j'ai vécu la mort pour mes parents. Donc, il y a des moments quand je suis peut-être un peu plus sensible, fatiguée ou autre. Et c'est vrai que quand je côtoie la mort, parce qu'on est là, on est confronté, pas au quotidien, mais on est confronté assez souvent, ce n'est pas évident. Parfois, je revis la mort de mes parents. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais sinon, en étant professionnel, on a deux faces. Quand on arrive dans l'établissement, on s'habille avec une blouse de professionnel et là, on laisse notre personnel un peu à l'extérieur. Et là, je pense qu'avec l'expérience, on s'y fait et ça se passe bien. Mais tous les jours ne se ressemblent pas, ça c'est sûr. Voilà. Parfois, on peut être très fort mentalement, parfois non.
Pour ma part, d'être confrontée donc à l'accompagnement de fin de vie, c'est quelque chose qui touche forcément quand on est humain. On s'accroche aussi à ces personnes-là, on crée des liens particuliers, des liens aussi intimes. Bien sûr, c'est toujours touchant, mais dans le métier, quand on sait qu'on travaille avec ces personnes-là, qu'on les accompagne jusqu'au bout, on est affecté, mais sans être déstabilisé. On est vraiment là pour les accueillir et qu'ils puissent vraiment partir dans les meilleures conditions. Surtout respecter leurs demandes, c'est quelque chose qui est important, de savoir est-ce que déjà leur apporter ce dialogue-là, leur dire quelle représentation vous avez, est-ce que vous avez des croyances, est-ce que vous avez des souhaits. Et tout ça, c'est important pour moi, pour vraiment veiller au respect de ce qui est le plus important pour eux. Du moment où j'arrive à respecter ce qui est important pour la personne, à ce qu'il n'y ait pas de souffrance physique, parce que c'est surtout ça qui est le plus présent, et partir avec une forme de paix, moi, je veille à ça. Et du moins aussi respecté, bien entendu, que pour moi, dans cet accompagnement, il y a quelque chose aussi comme une paix qui s'installe.
On perd des êtres qui font partie de notre quotidien. Ce sont des personnes qui, même s'ils ne sont pas de notre famille, en fait, ils font partie de nos vies. Ce sont des êtres humains qui rencontrent d'autres êtres humains. Qu'on le veuille ou non, ils touchent nos cœurs, quoi. Ce qui leur arrive, ça nous touche malgré tout. Mais après, il y a autre chose qu'on peut retenir aussi en EHPAD, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie, beaucoup d'échanges, beaucoup de rires. C'est ça qui est le plus important.
Nous irons chez ton père, lui demander ta main. Bravo!
Elle est longue, hein ?
Oui.
La vie vous transporte au gré de ses besoins à elle, pas de vos besoins à vous.
C'est ça que vous essayez de transmettre à vos...
Eh bien, j'aimerais le transmettre à mes petits-enfants, oui, tout ça. Qu'ils fassent le bien. Qu'ils fassent le bien, oui. Et qu'ils aident les gens qui sont dans la peine. Moi, je dis, quand vous voyez quelqu'un de malheureux, aidez-le. Et je pense que c'est vrai. Il faut aider ceux qui souffrent. On verra bien quand on sera là-haut. On en verra des grâces après.
Don't believe that there's a God, that there's another and better place.
C'était Transmission, un documentaire sonore enregistré à l'EHPAD Beau Soleil de Rivière-sur-Tarn. Merci à Camille Lorgeau pour l'invitation et la coordination du projet. Merci à tout le personnel, aux résidentes et résidents de l'EHPAD, ainsi qu'à leur famille. Transmission a été écrit et réalisé par Sophia Pavanini et produit par Radio Larzac. À retrouver sur radiolarzac.org.